Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Comment élever les porcs? L'élevage des porcs est une activité très courante chez beaucoup de Congolais, mais bien souvent, ces derniers éprouvent d'énormes difficultés pour mieux les élever, faute de porcherie. D'autres, par contre, hésitent à s'élancer dans ce domaine. Raison évoquée, l'entretien d'une porcherie n'est pas facile. On en parle avec Charles Mouema, ingénieur zootechnicien et consultant à la FAO. Alors, monsieur Charles, qu'est-ce qu'on doit faire pour démarrer une porcherie?
En fait, je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez à passer sur vos prestigieuses antennes.
Merci.
Et dire par la suite que il faudrait d'abord que celui qui veut exploiter le secteur évalue ses propres moyens d'investissement.
Oui.
Puisque très souvent dans ce pays, les gens se lancent dans des activités sans avoir évalué leur capacité. De tout point de vue.
Mm-hmm.
Point de vue compétences techniques, point de vue ressources financières, point de vue ressources matérielles. Et ils pensent que, comme il s'agit des animaux, on peut, par exemple, les mettre dans n'importe quelle condition d'élevage. Alors que, en réalité, les mauvaises conditions d'élevage sont essentiellement à la base des échecs que les gens rencontrent sur le terrain.
Oui.
Et l'expérience mais des autres, ceux qui ont échoué en fait dans ce secteur, fait que d'autres personnes qui voulaient se lancer dans l'activité hésitent. Donc, première chose,
on va d'abord, c'est une émission où on accorde beaucoup plus la parole aux auditeurs qui appellent, qui posent des problèmes et l'expert sur place va répondre directement. C'est du tic au tac. Alors, nous avons déjà en ligne Léonie qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Léonie.
Bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Oui, notre préoccupation, nous sommes dans des zones périphériques à Kindélé. Bon, nous faisons nos élevages de porcs.
Oui.
Si nous, on pouvait trouver des marchés crédibles, parce que quand nous élevons et on pourra abattre quelqu'un qui passe, et le fait que nous abattons, on nous achète nos porcs, ça ferait du bien. Parce que quand nous abattons, nous vendons ça des prix très bas. Des fois, les gens vous prennent ça en tête et les rendements, vraiment, ça me cause trop de problèmes. Vous voyez, nous avons beaucoup de difficultés et tout ça. Et c'est ça qu'on voulait qu'on nous assiste dans ce domaine-là. Même pour les entretiens, pour venir les vacciner, des choses comme ça-là. Ça nous fera beaucoup de bien. Nous, on avait des porcs. J'avais 4 loges pour les porcs. Et maintenant, j'ai tout arrêté parce que je ne pouvais pas aller tout là. Vous voyez.
Merci, Léonie, pour votre intervention. Qu'est-ce que vous direz à Léonie, monsieur
ouais,
Charles?
Oui, ce que je dirais à madame Léonie, c'est que, en fait, la solution à tout ce qu'elle vient de dire, c'est que il faut que les gens s'organisent. S'organiser en communauté d'éleveurs de porcs. Et c'est très rare de trouver ce cas à Kinshasa. Les gens travaillent en solo. Et lorsqu'elle dit, par exemple, qu'elle a du mal à trouver le marché, c'est souvent puisque elle ne s'organise pas avec les autres voisins qui ont la même chose que lui pour qu'ils trouvent un marché important. Il y a des restaurants qui sont dans la ville de Kinshasa qui, par exemple, ont besoin à la fois d'une tonne de viande, de porc, mais elle seule, elle n'est capable de fournir 20 kilos.
20 kilos, ouais.
Et le marché lui manque, dans ce sens. Alors, mais si, dans leur quartier à Kindélé, ils sont organisés pour chercher les marchés ensemble, des gros marchés, à ce moment-là, et prouver à ces preneurs leur capacité de pouvoir livrer régulièrement. Ça, c'est aussi une autre question.
Mm-hmm.
Ne venez pas avec de la viande une seule fois par tous les 3 mois, par exemple. Donc, les preneurs veulent, par exemple, des stocks qui peuvent se répéter sur chaque mois. Donc, finalement, il faudrait que chaque éleveur, à son niveau, trouve ses voisins, discute avec ses voisins, et mettre en place un mécanisme pour la recherche de marchés, de gros marchés, et mettre en place aussi un système de production continue pour faire face à la demande. Donc, si on ne travaille pas en professionnel, ce problème de marchés locaux pouvoir liquider les produits va toujours se poser.
On va se poser.
L'autre aspect, c'est, en fait, parce qu'elle a parlé de la vaccination, c'est pareil.
Mm-hmm.
Souvent, les vaccins, c'est à des doses conditionnées à des doses importantes. Ces doses, ça peut être 1000 têtes par flacon de vaccin, par etc. Alors, quand elle est seule, c'est difficile d'abord de s'acheter un vaccin pour traiter de bêtes et après laisser tomber le reste. Dès que vous ouvrez le flacon, c'est fini. Mm-hmm. Donc ça signifie qu'il faut absolument que les gens s'organisent d'abord à la base pour essayer d'identifier leurs problèmes ensemble et mettre en place un mécanisme pour y répondre.
Voilà, il faut s'organiser, donc mettez-vous ensemble. Alors j'imagine que l'élevage de porcs a beaucoup d'exigences. Hein.
Absolument, puisque il y a le logement d'abord. Il faut que le logement soit un logement sobre, puisqu'on n'en a pas les moyens pour mettre les porcs dans des très sobres, bien sûr, c'est-à-dire à bas prix, à bas coût, à réaliser à bas coût. Mais en même temps, il faut que cela soit confortable pour le porc. Il faut que le porc se retrouve dans des conditions où il peut
développer des espaces. Hein.
En terre, oui, c'est ça. Pas trop d'espace, il faut estimer ça suivant les normes. Les normes existent de construction.
Mais c'est toujours mieux que ça soit dans la périphérie où on peut aussi élever les porcs dans la ville.
En tout cas, lorsque vous avez plusieurs têtes de porcs, il faut s'éloigner du centre-ville. C'est la loi d'ailleurs.
Oui.
Mais quand on a un ou deux porcs, et qu'on gère bien les systèmes de traite d'hygiène, les systèmes prophylactiques pour ne pas gêner les voisins avec les odeurs et tout ça, je crois que c'est pas très condamné. Donc, cela est faisable. Mais avec un grand nombre de têtes de porc, il faut s'éloigner du centre-ville.
Voilà, Mathieu nous appelle depuis Kananga. Bonjour Mathieu. Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est la suivante. J'ai l'envie d'élever, mais je ne connais pas comment élever. Qu'est-ce que je peux faire?
Envie d'élever quelle espèce?
Ouais.
Vous voulez élever quelle espèce, monsieur?
Quoi? Les poules.
Les poules.
Poules, surtout les poules.
Non, mais poules. Si vous avez besoin des poules pondeuses, par exemple, les pondeuses, si vous voulez avoir une activité rentable, il y a un nombre de têtes sous lesquelles vous ne pouvez pas aller. Donc, si c'est des pondeuses, il faut prendre à partir de 350 têtes de pondeuses. Là, votre activité sera rentable.
Mais aujourd'hui, on parle particulièrement des porcs. Si vous avez besoin de pondeuses, bon, on en parlera un autre jour. Mais aujourd'hui, on parle particulièrement de l'élevage des porcs. Est-ce que vous êtes intéressé par les porcs aussi?
Oui, merci beaucoup.
Ouais, voilà. Si vous êtes intéressé par l'élevage des porcs, alors votre question est la bienvenue aujourd'hui. Donc, vous disiez tout à l'heure, il faut un logement sobre.
Oui. Hein,
en dehors d'un...
confortable.
Et confortable.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qu'il faut encore?
Alors, il faut penser à l'alimentation du porc.
Qu'est-ce que le porc mange généralement?
Donc, le porc, dans son alimentation, il faut respecter les quatre principes essentiels. Il faut que le principe protéique soit présent. Le principe glucidique, le principe lipidique et le principe minéralogique. C'est-à-dire qu'il faut que les éléments minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, viennent compléter en fait les aliments de base liés aux protéines animales, glucides, etc. Donc ça veut dire, lorsqu'on prend les ingrédients à utiliser pour fabriquer l'aliment du porc, il faut penser par exemple au tourteau de soja. En fait, tout dépend de sources d'approvisionnement. Parce que vous pouvez être dans une zone où il n'y a pas de tourteau de soja. À ce moment-là, vous cherchez une autre légumineuse à substituer. Alors, il faut penser à... Par exemple, les gens négligent souvent la jacinthe d'eau qui se trouve sur le fleuve du Congo. C'est un végétal qui est important aussi dans l'alimentation du porc. Lorsqu'on l'utilise, on peut l'insérer dans le régime alimentaire du porc au tiers. Donc, si par jour le porc mange 3 kilos, par exemple, on peut envisager d'insérer un tiers de ces 3 kilos
de la jacinthe.
Et ça réduit le coût, donc, de l'aliment du porc.
Ah, c'est un bon repas pour les porcs, ça.
Oui, c'est un bon repas pour les porcs.
Ah, voilà.
Donc, une fois qu'on a cette jacinthe, il faudrait enlever toutes les racines et découper un tout petit peu et placer un peu de temps sous le soleil pour réduire le taux en eau afin d'éviter la diarrhée chez les porcs.
Mais on a appris que ça, parfois les porcs arrivent à manger leurs petits. Quand ils mettent bas, après un moment, ils bouffent carrément leurs petits.
En réalité, ça, ce sont des mauvaises mères, puisque les mauvaises mères, on les trouve aussi chez les animaux. Et bien, il y a des causes extérieures aussi qui jouent. C'est peut-être un mauvais régime alimentaire qui a été donné à ces bêtes. Et il y a aussi le manque de suivi. Puisque le jour de la mise bas, il faut que cette mise bas soit accompagnée. Il faut qu'il y ait une présence de l'éleveur, la présence de l'éleveur, qui va essayer d'encadrer la mise bas, etc. Puisqu'il arrive que la truie écrase ce petit, tout simplement, puisque au moment de la mise bas, il n'y avait aucune présence.
Il n'y avait aucune présence. Et les porcs peuvent mettre bas combien de petits par année, je ne sais pas.
Bon, par mise bas, en moyenne, hein, on peut prendre 8 têtes, 8 petits, mais on peut aller à 14. Mais souvent, on s'arrête à 8 pour éviter de mettre là-dedans tous les petits qui seront morts, les morts-nés et tout ça.
8 par an.
Non, pas par an, par mise bas. J'ai dit par mise bas.
Par mise bas.
Ouais.
Alors, il peut savoir combien de mise bas par an.
2,5, mais 2. Oui. Donc ça fait 2 fois 8, ça fait 16.
Ça fait 16.
Par truie, par an.
Radio Okapi, Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081-890-63-94 et envoyez vos SMS au 081-070-20-50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Charles Mouema, ingénieur zootechnicien et consultant à la FAO, est notre invité aujourd'hui pour parler de l'élevage du porc. Vous venez de donner des éléments qu'il faut respecter pour élever les porcs. Vous avez parlé d'un logement sobre, l'alimentation, donc on parle de l'alimentation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aliments? Vous avez parlé des tourteaux, des soja, légumineuses, jacinthe d'eau, quoi d'autre?
Il y a le sel qu'on peut mettre dedans, le sel de cuisine.
Sel de cuisine.
Oui. Il y a les élugos et les morts auxquels il faut penser. Mais ça, c'est des choses qui souvent coûtent cher hein, pour les petits éleveurs.
Les petits éleveurs, oui.
Les petits éleveurs, on leur demande de donner beaucoup de légumes aux porcs. En fait, quand ils ont leur jardin, le potager ou leur plate-bande de maraîchage, les légumes qui semblent être non utilisables pour l'homme, on peut les utiliser pour nourrir les porcs. Ces légumes vont apporter justement les éléments minéraux, etc. Donc, alors autre chose, c'est les aspects de soins et traitements vétérinaires. Donc, il faut absolument que les éleveurs de porcs rentrent en contact avec les spécialistes pour qu'ils sachent comment faire un suivi vétérinaire, comment respecter les calendriers de vaccination. Chez le porc, il y a un problème souvent pour les jeunes nés, au moment où ils perdent leur sang, il faut absolument qu'ils subissent des injections en fer pour qu'on évite en fait ce cas de perte de sang qui conduit à la mortalité. Donc tout ça, c'est des choses que les éleveurs peuvent apprendre auprès des spécialistes. Je pense que là, à Kindele, on ne peut pas manquer de trouver un vétérinaire, de quelque niveau qu'il soit, mais qui peut les aider à travailler correctement dans ces choses.
Voilà. Et est-ce que les porcs sont attaqués aussi, généralement, par des épidémies, comme c'est le cas avec les autres animaux?
Oui, notamment la peste porcine africaine, ou la peste classique aussi, qui décime chaque année les porcs dans ce pays. Et souvent, la cause principale, c'est que les porcs, étant en divagation, vont rencontrer les germes dans la nature, puisque c'est aussi un virus qui s'attaque aux porcs sauvages. Alors, les porcs étant en divagation, ils s'infectent et ils ramènent la maladie à la maison. En fait, la maladie la plus dangereuse, c'est la peste
porcine,
puisque c'est une maladie à virus. Et comme vous le savez, le virus, c'est un agent que l'homme parvient à contrôler difficilement, à maîtriser difficilement à cause du fait qu'il a beaucoup de variantes, il varie souvent, très souvent. Mais il y a d'autres maladies comme le rouget de porc, une maladie causée par une bactérie. Celle-là est facile à maîtriser une fois qu'on a les produits nécessaires pour traiter les bêtes.
Les bêtes.
Puisqu'avec la peste, il arrive que le porcher, disons l'éleveur, perde toutes ses bêtes, hein, puisque les taux de mortalité arrivent jusqu'à 100% des cas.
Mais pourquoi se fait-il que la porcherie, souvent, là où il y a des porcs, ça sent toujours mauvais? Est-ce qu'on peut dire que les porcs, c'est des animaux qui aiment beaucoup la saleté?
Non, c'est plutôt le manque d'entretien de la part de l'éleveur, puisqu'il y a des produits utiles à lutter contre les odeurs. Et chaque matin, il faut que l'éleveur nettoie la porcherie. Chaque matin.
Là, il faut peut-être engager des gens, une équipe des gens qui peuvent le faire.
Bon, engager pour une petite exploitation, c'est une charge inutile. Ce qu'il faut faire pour des petits exploitants, c'est démobiliser les membres de famille. Parce que très souvent, dans ce pays, L'éleveur, il est seul, c'est les enfants le regardent papa qui travaille seul, la maman regarde papa qui travaille seul, mm-hmm. alors qu'en réalité c'est une activité familiale. Il faut que tout membre de la famille y mette la main dans la pâte. Comme ça, les gens travaillent à tour de rôle, etc. Certains peuvent aller chez couper de la verdure, d'autres aller puiser de l'eau, puisqu'il y a des gens qui ont des porcheries à des endroits très éloignés de points d'eau.
Mm-hmm.
Et là, ils sont obligés d'aller prendre de l'eau à des distances éloignées. Et bien, si on n'implique pas les enfants pour le faire, c'est difficile que papa le fasse seul.
Oui. Et les porcs boivent beaucoup d'eau ?
Absolument. Le porc, je crois que c'est parmi les animaux domestiques, l'animal qui a plus besoin d'eau, c'est
le porc.
C'est le porc.
Il y a Zakabé qui nous appelle depuis Bukavu. Zakabé, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, vous avez la parole.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Allez-y, Zakabé.
Oui, j'avais seulement une petite question concernant...
S'il vous plaît, Zakabé, est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre... Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre récepteur, là?
Oui, oui, c'est déjà.
Voilà,
déjà.
Allez-y.
Oui, je voulais poser cette question. Est-ce qu'une seule personne peut élever 10 porcs à la domicile? Et savoir comment les garder pour que les porcs donnent une recette positive.
Bon, tout de suite, je dirais une seule personne, je crois que je dirais que ça ne suffira pas. Puisqu'il arrive que cette personne fasse des courses. Cette personne peut tomber malade. Cette personne peut voyager.
Oui.
Mm-hmm.
Mais si la personne voyage et que tous les autres membres de famille n'ont jamais été impliqués à l'activité, qu'est-ce qui va se passer après son départ? Donc, ils vont tâtonner et autour de la personne, il va trouver que le bête n'existe plus.
Yeah.
Donc, il faut absolument impliquer les membres de
la famille.
Si on n'a pas de membres de famille, là, on peut recourir à
un voyageur
extérieur,
oui.
Mais en mettant en place une convention. Par exemple, celle de dire, je ne vous paye pas à la fin du mois puisque c'est une petite activité, mais au moins, on se partage les produits. Il y a une mise bas, nous disons voilà, 8 petits par femelle. On dit voilà, 2 petits c'est à toi, disons du voisin. Comme ça, vous propriétaires, vous restez avec 6.
Donc le voisin aussi peut démarrer aussi.
Il démarre aussi l'activité.
Une activité. Ouais.
Donc ça n'implique pas que les gens se mettent à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas quoi.
Mm-hmm.
Voilà.
Michel nous appelle depuis l'Issala. Bonjour Michel.
Oui, bonjour monsieur.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Bon, j'avais deux préoccupations. Je voulais demander à l'ingénieur.
Oui.
Il avait parlé le problème de quand il parle de problème de porc. Je lui pose la question s'il y a la différence juste entre le rouget du porc et la peste porcine. Et des deux, il voulait nous donner vraiment les espèces préférées que nous pouvons élever au porc, surtout nous. Qui sont ici à l'intérieur, les espèces dedans, j'avais ces deux préoccupations-là.
Voilà. S'agissant des espèces, je dirais que je vais tout petit peu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour lancer un élevage, il faut évaluer ses capacités, ses moyens d'investissement. Et en milieu ruraux comme chez vous là-bas, c'est sûr que vous ne pouvez pas réunir toutes les conditions d'un élevage intensif. Alors, ça signifie que vous devez recourir à des espèces déjà adaptées à vos conditions, notamment la race locale. Le point faible pour cette race locale, c'est le rendement à l'abattage. Donc, la race locale, le poids moyen âge adulte avoisine souvent les 50 kilos. Donc, c'est faible par rapport à une race améliorée, comme les large white, les piétrins, etc. Donc, ces races peuvent arriver à 300 kilos, 200 kilos, 250, etc. Donc, vous voyez la différence. Maintenant, est-ce qu'il faut se lancer à élever une race améliorée dans les mauvaises conditions? Je dis non. Il faut élever la race
à race locale.
Aux conditions locales.
Mm-hmm.
Tout en cherchant à accompagner cette activité à autre chose, à avoir un système intégré pour pouvoir faire face aux besoins de la famille.
Voilà, il a parlé aussi de la peste porcine.
Oui, la différence entre la peste porcine, le rouget de porc, elle est claire hein, en termes de symptômes. Donc, quand vous prenez la peste porcine, vous avez vous finirez par trouver votre porc avec une paralysie de pattes postérieures, etc. Et avec des taux de mortalité à très élevé. Mais ce qu'il faut faire concrètement dans ce cas, c'est souvent de faire appel à des spécialistes pour pouvoir faire la différence de ces deux cas de maladie. Mais en plus, d'exiger auprès des chargés de l'administration du secteur agricole de vos zones, de prélever chaque fois des échantillons et de les envoyer au laboratoire pour analyse. C'est seulement après l'analyse de labo qu'on peut caractériser la maladie avec précision. Pour le reste, c'est le tâtonnement, etc. Donc c'est dangereux de gérer une maladie dans une zone sans savoir exactement en quoi ça tourne si on n'a pas été au laboratoire.
Voilà, ce sont les conseils pratiques de Charles Mouema, ingénieur zootechnicien et consultant à la FAO. Alors, pour démarrer l'élevage, quel est le capital? On peut partir avec combien pour démarrer cette activité?
Bon,
il faut disposer de combien? Voilà, en termes d'argent, disons.
Bon, en fait, c'est un peu difficile de dire cela ici sur le plateau.
Oui.
Et étant donné que ce démarrage, on ne sait pas c'est avec combien de têtes d'animaux, etc. Quelqu'un peut démarrer avec une bête, l'autre peut démarrer avec 10 bêtes, avec 100 bêtes. Alors tout dépend donc de ce qu'on veut faire, quoi.
Mais où trouver ces têtes? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller acheter, ou il faut voir un autre éleveur?
Bon, les endroits existent, hein, les endroits existent, on peut en importer aussi, hein.
Mm-hmm.
On importe régulièrement disons, quelquefois les souches améliorées de porc. Il y a une fois une structure qui travaille avec, je crois, les Belges avaient importé la race Pietra, qui est présente actuellement dans la ville de Kinshasa.
C'est une race améliorée.
Une race améliorée. Et c'est cela.
Voilà, vous avez le temps, l'opportunité d'appeler au 081-890-6034 pour poser vos problèmes, et notre invité est là pour apporter des solutions. Paul nous appelle de Guémena. Bonjour Paul.
Et bonjour Monsieur Jody Kachama.
Oui Paul, vous avez la parole.
Ok, merci. Je voulais un peu demander à notre invité le problème de notre milieu ici. Nous sommes aussi du nord Ubangi, mais nous avions connu le cas de la peste porcine.
Oui.
Et comment nous devons les détecter que c'est de tels virus ou bien de tels virus, parce qu'on ne dispose de rien comme le laboratoire ici de chez nous. Et alors, le problème, ma deuxième préoccupation est la suivante. Nous voulons assez qu'ils nous éclaircissent sur les remèdes appropriés pour nos porcs. Parce que donc la maladie a vraiment éliminé presque toutes les espèces de nos porcs ici. On ne sait pas comment on peut faire. Là, c'est presque ça ma préoccupation.
Voilà, je vais commencer par le deuxième aspect de votre préoccupation. En fait, pour lutter contre toute maladie, la première chose, c'est de penser à éviter la divagation des animaux. Il faut éviter que vos animaux circulent de partout, etc. Parce que quand ils circulent, ils peuvent facilement attraper des microbes de gauche à droite.
Il faut les garder dans un enclos.
Il faut les garder dans un enclos.
Mm-hmm.
Deuxième chose, il faut que l'entretien soit soutenu. Il faut que chaque matin, on nettoie l'endroit où est logé le porc. C'est capital. Autre chose, c'est qu'il faut être en contact avec le vétérinaire de la zone pour que lui vous apporte son appui technique avec des conseils sur la façon de nourrir les animaux. Puisque quand un animal est mal nourri, il devient fragile et il tombe souvent facilement malade. Donc, il faut que vous fassiez encadrer par les spécialistes de vous êtes dans le nord Ubangi.
À Guémena.
Je suis très sûr que là-bas, il y a des vétérinaires de l'État qui sont là. Il suffit seulement d'aller vers eux pour demander un conseil, un appui, etc. Si vous êtes organisé de votre côté, l'État qui est là présent pourra vous aider avec des conseils et tout ça.
Et il dit comment détecter la peste porcine.
Oui, ça, il a parlé de la manière de savoir si c'est quel virus.
Oui.
Mais ça ne peut être que le laboratoire. Donc, une fois qu'ils sont en contact avec le service de l'État, dernièrement, il y avait un réseau qui était mis en place pour surveiller les puis aussi les maladies dans tout le pays. Ce réseau, je crois qu'il est encore existant, même s'il n'a pas beaucoup de capacité de travail, mais il faut y aller. Eux peuvent avoir les moyens pour prélever des échantillons et les envoyer dans de bonnes conditions au laboratoire de Kinshasa. qui va vite les analyser et vous dire de quelle maladie il s'agit, quoi.
Mais est-ce qu'il y a des signes, par exemple? Il veut savoir, est-ce qu'il y a des signes pour reconnaître que l'animal devient malade?
Le premier signe pour tout animal malade, c'est qu'il devient, il s'isole. Il s'isole. Il ne bouge plus beaucoup, il n'est plus avec les autres. Il perd l'appétit, donc il n'a plus envie de manger. Et pour les cas de la peste porcine, on constate une congestion au niveau des oreilles, une congestion au niveau du groin, au niveau du ventre. La fièvre aussi, et il y a une sorte de conjonctivite au niveau des yeux.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est des signes qui peuvent indiquer que c'est...
Oui, l'animal est malade.
Photo
nous appelle de Kimbaseke. Bonjour, Photo.
Bonjour.
Oui, vous avez la parole.
Oui, j'ai une question sur l'alimentation. Hein.
Oui.
Moi, je suis un petit éleveur, alors dans l'alimentation, comme je suis entouré des mamans qui fabriquent des chikwangs, et en tout cas, j'ai toujours et chaque jour un seau rempli de déchets, de chikwangs que je mets dans l'alimentation. Est-ce que c'est nourrissant ou quoi? Puisque bon, jusque-là, je fais ça.
Bon, en général, le manioc n'est pas très, très nourrissant. Le manioc, il faut toujours l'accompagner de quelque chose. Vous vous souvenez même pour l'homme, quand l'homme ne mange que du foufou de manioc, et que l'autre lui mange le mélange foufou de manioc et maïs, ces deux messieurs se développent différemment. Donc c'est un signe qui montre que le manioc est souvent moins riche par rapport à d'autres aliments. Il faut, en plus de ce chikwang, essayer d'apporter autre chose, par exemple la jacinthe d'eau, par exemple le kikalakasa. Vous savez qu'il y a le kikalakasa.
La jacinthe d'eau qu'on appelle généralement Congo
Yassika
sur le fleuve.
Ah, le kikalakasa, mm-hmm. Vous pouvez planter ça le long de votre parcelle. C'est riche en protéines, vous enrichissez donc l'alimentation de vos porcs, etc. Vous avez les déchets de moulins. Là où il y a des moulins de maïs, demandez à ceux qu'on vous balaye les balayures le soir. Et vous ramassez ça, vous enrichissez l'aliment de votre porc, quoi. Ne vous contentez pas de chikwang.
Des chikwangs. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Charles Mouema, ingénieur zootechnicien et consultant à la FAO. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Je vous en prie.